9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Sophie Baird.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes la rédactrice en chef du bimestriel Psychologie Positive, dont le numéro de novembre-décembre vient de sortir. C'est quoi l'accroche en couverture ?
Alors, on a titré Consolation, qui est un titre assez fort. C'est en référence au titre du dernier livre d'Anne-Dauphine Julien qu'on a interviewé dans nos pages. Et c'est l'auteur de Deux petits pas sur le sable mouillé, où elle racontait la maladie rare et la perte de ses deux filles. Et là, son livre part de son expérience personnelle pour ouvrir à la consolation universelle. Donc, s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'être consolés et à tous ceux qui cherchent à consoler.
Donc rien à voir avec la consolation des gens qui sont chez eux à cause du confinement. Nathalie Cohen, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes l'éditrice de Psychologie Positive au sein du groupe Oracom. Vous êtes en quelque sorte la patronne de Sophie Baird. Juste un mot, c'est quoi le prix au numéro ?
Il est à 5... Vous me posez une colle, là.
J'étais sûr que vous ne sauriez pas répondre. Il est à 5,95. D'abord, on va expliciter...
C'est ce que j'allais vous dire.
Voilà. Tout d'abord, on va expliciter le titre Psychologie Positive. Qu'est-ce que c'est ? Quelle différence avec la psychologie tout court ? Et est-ce qu'il existe, et ceci n'est pas une question rhétorique, est-ce qu'il existe une psychologie négative ?
Négative.
Sophie Baird.
Bien sûr que non. En fait, on entend beaucoup parler de psychologie positive ces derniers temps, et dans une version assez édulcorée, et on la confond souvent avec la pensée positive, la fameuse méthode Coué. Donc il suffirait de vouloir être heureux pour y arriver grâce à une baguette magique. En fait, évidemment, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de psychologie positive opposée à une psychologie négative. La psychologie positive, c'est juste une discipline de la psychologie qui a été fondée par Martin Seligman à la fin des années 90 et qui cherche à comprendre les conditions de l'épanouissement de l'être humain. Donc, dans quelles conditions on se sent bien. Voilà. Donc, ça peut aider tout un chacun dans sa vie de tous les jours, mais il y a aussi des psychiatres comme Christophe André qui l'utilisent pour aider dans les dépressions grave. Donc, elle n'est pas opposée à la psychologie clinique ou la psychologie de la souffrance, mais elle s'adresse vraiment à tout à chacun.
Plein de petites questions d'actu, Sophie Baird, dans l'édito que vous signez. Vous vous êtes intéressée à la parole, la communication verbale, la communication non verbale. Qu'est-ce que ça change, le fait d'avoir un masque en termes de psychologie ?
Alors oui, on a un article justement sur comment lire les émotions derrière un masque.
Oui.
Et malheureusement, apparemment, ce sont plutôt les émotions négatives comme le chagrin qui seraient plus lisibles parce qu'elles se lisent davantage au niveau des yeux, alors que les émotions de la joie sont plus difficiles à percevoir.
C'est horrible, avec un masque, on voit davantage quelqu'un qui fait la gueule que quelqu'un qui sourit, c'est horrible.
Voilà, alors il y a beaucoup d'études en ce moment, notamment de notre contributrice Jeanne Siofachin, sur les effets du masque, notamment à l'école, pour les élèves et pour les enseignants. Donc c'est un nouveau champ de recherche très intéressant. Et là, il y a un petit test qui a été fait. En fait, quand on essaie de lire une émotion sur un visage derrière un masque, on aurait la bonne réponse que dans 6 fois sur 10. Donc voilà, évidemment, c'est plus difficile de... la communication verbale devient d'autant plus utile quand on est derrière.
Alors justement, la communication verbale, il y a un article qui nous a particulièrement passionné ici à Culture Média, un sujet qu'on avait déjà traité mais avec un angle différent, plutôt votre angle est différent du nôtre. Le titre « Il cause », c'est au pluriel, je lis. Sur les plateaux de télé, les célébrités clament volontiers leurs opinions et ce, quel que soit le sujet abordé, même s'ils n'y connaissent pas grand-chose. Et nous, on s'était intéressés aux médias en se demandant pourquoi les télés invitaient des chroniqueurs qui ne savaient pas toujours de quoi ils parlaient. Un jour, ils sont spécialistes du coronavirus, le lendemain du terrorisme, le surlendemain des élections américaines et le quatrième jour des vaccins. Et vous, dans Psychologie Positive, vous prenez l'angle inverse. Pourquoi les célébrités acceptent d'aller sur les plateaux de télé en dépit d'une compétence qu'elles savent très limitée ? Et vous avez fait appel à une professeure en psychologie sociale. Quelle est la réponse ? Pourquoi les gens vont parler d'un sujet qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas en tout cas ?
Oui, alors effectivement, l'article est dédié à ce qui peut se passer dans la tête des célébrités qui acceptent de parler de sujets qu'elles ne maîtrisent pas du tout, et analyse l'effet de la confiance en soi. Plus la personne est connue, plus son estime de soi augmente, d'une part. Par ailleurs, plus son statut social est élevé, moins elle va percevoir de critiques. Les gens n'oseront pas faire de retours négatifs.
Ouais.
Et donc, c'est une sorte de spirale où la confiance de la personne célèbre va gonfler, s'augmenter et plus elle va parler avec assurance, plus elle sera invitée par les médias sur des sujets de plus en plus variés. Voilà.
Donc on est mal barré. vraiment, on est très bien. Alors, il y a un truc assez extraordinaire. Sous le titre « Halte au moulin à parole », vous consacrez un article de 7 ou 8 pages à ce que vous appelez les parleurs compulsifs. C'est quoi la définition du parleur compulsif ?
Alors, on en connaît tous, hein, c'est la personne lors d'un dîner ou au boulot qui ne va pas pouvoir lâcher la parole et laisser la place à l'autre. Donc on est souvent exaspéré parce qu'on a tous envie justement de donner notre point de vue et de parler. Et on a souvent une idée assez faussée des bavards compulsifs qui parleraient ainsi parce qu'ils ne penseraient qu'à eux et n'écouteraient pas l'autre. Donc l'article essaie d'analyser les raisons de ce bavardage et montre que parfois, c'est tout simplement parce que la personne essaie de vous mettre à l'aise en parlant beaucoup. Et donc, les raisons du bavardage compulsif ne sont pas forcément de l'égoïsme et un manque d'écoute. Ouais. Donc, il y a des conseils pour celui qui n'arrive pas à en placer une, comment essayer de ralentir le débit du bavard compulsif. Ouais. Des conseils pour le bavard compulsif, comment arriver à mieux écouter l'autre. Et puis, un petit test pour savoir où vous en êtes dans l'échelle du bavardage.
Alors, puisque vous en parlez du test, et ça m'a passionné. Êtes-vous un parleur compulsif ? C'est ça le test. Très intéressant. Test en 10 questions. Alors, pour savoir si on est un parleur compulsif, il faut répondre de 1 à 5, suivant qu'on se reconnaît entièrement ou pas du tout dans les affirmations. Alors, les voici. 1, il m'arrive de parler plus que je ne devrais. Donc, vous mettez de 1 à 5 pour savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. 2, mon bavardage me met régulièrement dans des situations délicates. 3, j'aime bien prendre la parole. 4, en général, le parle trop. Mais alors là, arrive l'affirmation numéro 5, je suis un parleur compulsif. Bah, si le type répond oui, c'est qu'il est un parleur compulsif, donc c'est pas la peine de faire le test. J'ai rien compris à votre test.
C'est le problème des tests scientifiques. Donc, nous, on propose une version adaptée de tests utilisés par des psychologues.
Oui.
Et donc, il y a des questions qui sont parfois déroutantes. Souvent, les questions
non,
semblent
mais vous
redondantes.
Vous ne pouvez pas mettre le question du test dans le test. Êtes-vous trop maigre ? Oui, je suis trop maigre. Pas la peine de faire le test sur la maigreur.
Dans quelle mesure estimez-vous être un bavard compulsif ? Quel est votre jugement par rapport à ça ? Et voilà, ça donne une indication par rapport à toutes les questions. Mais c'est très difficile de proposer des tests étayé scientifiquement dans une version vulgarisée. Donc parfois, les questions sont un peu déroutantes, effectivement.
Voilà. Et c'est ce qui m'a amusé. On en reste. On n'a pas parlé du côté business de ce magazine qui marche très bien. Il en est à son numéro 34, Psychologie positive. On en parle juste après ça dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Sophie Baird, elle est rédactrice-chef de Psychologie positive, le bimestriel, à pas confondre avec un bimensuel, bimestriel c'est une fois tous les deux mois, et Nathalie Cohen qui est l'éditrice de ce magazine, de beaucoup d'autres au sein d'un groupe, on va en reparler. Il y a aussi une psychologue qui répond aux questions des lecteurs, lectrices, elle s'appelle Béatrice Copper-Royer. Elle pose des questions qui sont, plutôt les questions qui arrivent, sont dans l'actualité. Le télétravail renforce ma solitude, on est en plein dedans. Ma fille angoissée par le port du masque, là aussi. Et puis les consignes sanitaires de la maternelle sont trop stressantes. Vous avez quel décalage entre le bouclage et la publication ?
Alors, on a bouclé ce numéro début octobre.
Ouais.
Pour une parution fin octobre. Donc effectivement, en ce moment, c'est compliqué parce que ça va très vite. En même temps, c'est un magazine qui prend beaucoup de recul par rapport à l'actualité. Donc là, les questions qu'elle répond Béatrice Copper-Royer sont toujours d'actualité.
Bien sûr.
L'article « Ce que l'on pense tout bas à propos du coronavirus », c'était une prise de recul par rapport au premier confinement. Mais finalement, voilà, on est de nouveau
on est plein dedans.
Dedans.
Vous pensiez donc, parler au passé, vous parlez au présent.
Exactement. Ouais.
Nathalie Cohen, on va parler de business dans un petit moment. Est-ce que vous avez vu une incidence du confinement sur les ventes du magazine ? Ou est-ce que ça ne change, ça ne change rien ?
Alors, c'était pas très simple à évaluer parce qu'il y a quand même, lors du premier confinement, un certain nombre de points de vente qui ont fermé, et notamment tout ce qui est relais, qui représente un pourcentage important de nos ventes. Pas crucial, mais oui, au global, ça s'est plutôt très bien maintenu. On a eu une augmentation des abonnements, on a eu une augmentation des ventes directes qu'on fait sur notre boutique en ligne. Donc oui, mais en même temps, c'est pas très étonnant parce que il y a pas beaucoup de magasins qui sont ouverts, les librairies étaient fermées. Donc au niveau de l'offre de lecture, il ne restait guère que la presse. Donc oui, ça nous a bénéficié, oui, bien sûr.
Combien vendez-vous désormais ? Combien de ventes au numéro et combien d'abonnés et combien de lecteurs ?
Sur psychologie positive
oui.
Ou au global sur le
développement
personnel ?
Psychologie positive. psychologie positive?
Voilà, on doit être grosso modo à un global de 40. Et il doit y avoir 10-15%, ouais, 10-15% d'abonnement, un truc comme ça. Ouais, les ventes directes, c'est pas énorme.
Ouais, le leader, c'est psychologie.
C'est vraiment
192 000 exemplaires, ce que je lisais, qui est vraiment devant.
Oui, bien sûr. Mais nous, on n'a pas du tout la même approche.
On a bien compris. Qui est votre public? Ce sont surtout des femmes, des lectrices?
Ce sont pas seulement. Ce sont 60% des femmes et 40% des hommes. Mmh. La tranche d'âge est assez large. Ça va de 25 à 55, 60. On s'adresse vraiment à... En fait, Sophie tout à l'heure parlait de la psychologie positive, la discipline. Mais quand on a choisi ce titre, pour moi, c'était effectivement un petit clin d'œil en négatif à notre ami Freud, qui considérait que l'humain n'était qu'un ramassis de névroses et qu'il fallait s'en débarrasser et lutter contre. Et nous, on voulait faire un magazine où on considérait que l'humain était un ramassis de talents et de forces, et on voulait offrir tout un panel d'articles pour l'accompagner dans la culture de ses forces, de ses talents, etc., et dans la compréhension, tout cela étant scientifiquement
étayé.
Étayé.
Et des talents féminins. J'ai regardé l'ours, c'est-à-dire la liste des personnes qui travaillent pour le journal, en l'occurrence le générique. La rédactrice chef, c'est vous, Sophie Baird. Ensuite, il y a une rédactrice graphique. Ensuite, une coordinatrice. Et je vais pas donner tous les noms, je vais donner les prénoms des rédacteurs. Bénédicte, Tiphaine, Béatrice, Caroline, Safia et Toby. Tribune sont signés Iliona, Anne, Florence et Jeanne. Le seul homme, c'est Toby Nathan. Sur 13 noms, 12 femmes. C'est formidable et ça change. Est-ce que c'est un choix rédactionnel? Est-ce que c'est une discrimination à l'embauche? Ou est-ce que c'est parce que les hommes sont moins compétents que les femmes dans cette discipline?
Ah, c'est drôle que vous disiez ça. On n'avait jamais fait attention à ça.
Moi, j'adore poser les questions personne n'a repérées. C'est justement mon plaisir.
Eh ben, c'est un hasard total.
C'est un hasard.
Il n'y a aucune volonté derrière. Mais vraiment aucune.
D'accord.
Et puis les hommes ont une grande place, notamment dans nos interviews.
Oui.
C'est le marin britannique Alex Thompson qui répond à des questions sur les émotions dans ce numéro. Dans le prochain numéro, ce sera Gaël Faye qui était votre invité hier.
Ouais.
On a changé la couverture, on a fait une couverture illustrée avec un homme pour justement, parce qu'on s'adresse aussi aux lecteurs masculins.
Il y a tellement de magazines, c'est pas moi qui vais vous le reprocher, tellement de magazines où il n'y a que des mecs que franchement, ça fait un peu d'oxygène.
Tant mieux.
Il y a également, j'ai bien lu l'ours, et il y a également beaucoup de noms hollandais ou à consonance belge, je ne suis pas spécialiste, qui signent des articles. En bas de l'ours, il y a une équipe de rédaction en Hollande. C'est la déclinaison d'un magazine hollandais, c'est bien ça, Nathalie Cohen.
Oui, tout à fait. Alors... Oui, en partie. En fait, il existait un magazine hollandais que je trouvais extrêmement bien fait et extrêmement sérieux, et qui est le magazine que j'aurais voulu acheter quand j'avais 30-35 ans.
Ouais.
En revanche, je trouvais que l'ensemble de ces articles n'était pas exactement ce que nous on avait envie de faire. Donc on leur a proposé de leur acheter la licence de ce magazine, mais en ayant nous une ligne éditoriale différente et en faisant une sélection de sujets qui correspondent à cette ligne éditoriale de psychologie positive. Donc c'est une adaptation.
Il nous reste une minute.
Donc il y a beaucoup de sujets qui sont produits évidemment chez nous.
Mais oui, d'où cette rédaction féminine quasiment exclusivement. Vous êtes éditrice au sein du groupe Oracom. D'un mot, les autres et magazines que vous éditez, Nathalie Cohen.
Alors le plus gros, le plus connu, c'est Happiness, qui compte plus de 450 000 lecteurs à tous ses numéros. Nous avons aussi un magazine Respire, avec sa déclinaison pour les adolescentes Miss Respire, qui est très bien fait, qui est d'ailleurs le seul magazine en France sur ce sujet. Yoga Magazine, nous avons lancé un concept complètement inédit, 100% fait maison, qui s'appelle La Petite Fabrique, magazine de parentalité positive, parents-enfants, qui a d'ailleurs eu un prix... un prix d'innovation. Est-ce que j'en oublie?
Oui, vous oubliez. Vous avez toujours Top Gear ou pas? Vous avez toujours Top Gear?
Oui, on a toujours Toby. Ah ben voilà, il n'est pas dans le développement personnel.
Non, mais je ne vous demandais pas ça. Je vous demandais au sein du groupe Oracom, parce qu'il y a beaucoup de choses.
Oui, on a Top Gear, on a le monde des animaux et de la nature.
Parce que Top Gear, on va le dire, c'est quand même c'est l'émission emblématique de la BBC où les mecs pilotent des bagnoles complètement déjantées. Ça va du diesel aux Ferrari les plus ultimes. Merci beaucoup.
Mais le magazine n'a rien à voir.
Merci beaucoup, Nathalie Cohen. Vous êtes donc l'éditrice du groupe Oracom qui publie Psychologie positive. La rédactrice en chef de ce bimestriel, c'est Sophie Baird. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.